Bonsoir à tous, merci d'être venu ce soir rencontrer Pierre de Marty qui publie En face aux éditions Flammarion. Bonsoir Pierre de Marty.
Bonsoir.
Alors vous êtes ancien normalien, agrégé d'anglais et vous n'êtes pas que romancier parce que vous êtes également éditeur de littérature étrangère ainsi que traducteur. Vous avez traduit Paul Harding et vous avez obtenu un prix pour Les Foudroyés, le prix Maurice Edgar Coindreau. Alors, En face, c'est l'histoire d'un type, Jean Nochez, anagramme trafiqué de Jean Echenoz, on devine, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, qui décide d'aller voir en face de chez lui à quoi ressemble sa vie depuis la fenêtre opposée. Alors, on y devine en même temps un hommage à la littérature, en même temps un éloge de l'immobilité, et peut-être en premier lieu, une sorte de voyage dans la langue française. Alors, j'ai lu un article dans le Nouvel Obs à propos de ce roman, de Grégoire Leménager, qui disait... Enfin, un roman qui ne raconte pas grand-chose, mais qui le raconte en virtuose. Est-ce que vous trouvez que ça rend justice à En face ?
Oui, j'ai lu le même article. Je me disais que c'était un petit peu pervers au départ de dire « Enfin, un roman qui ne raconte pas grand-chose », parce qu'on pourrait très bien retourner le compliment pour en faire un reproche. Mais je dois avouer que oui, j'assume entièrement cette vision du livre, qui effectivement est un livre sur rien. Pour reprendre le mot d'ordre de Flaubert qui rêvait d'écrire un livre sur rien, moi aussi à un moment donné je pense que je me suis dit je vais écrire un livre sur rien. Le rien est peut-être à mon sens encore plus séduisant que le tout et encore plus séduisant que les grandes aventures. Et moi j'ai toujours aimé les romans comme ça qui ont l'air de raconter absolument rien ou de démarrer à partir d'un événement absolument minuscule et à partir duquel se fabrique un texte voilà, qui va tourner autour de ce rien et s'y engouffrer. Donc oui, j'assume absolument ça. Ouais.
Alors c'est drôle parce que vous mentionnez cette expression. Je sais que vous êtes un lecteur d'Éric Chevillard, enfin je le devine. Et récemment, dans la revue Europe, on demandait à Éric Chevillard si son but était d'écrire un livre sur rien. Et il disait que pour lui, la notion était un peu insaisissable et qu'il préférait justement le livre sur tout. Mais bon... C'est vrai que c'est assez compliqué.
Mais c'est un cercle, le tout et le rien
voilà.
Se rejoignent.
Parce que effectivement, il n'y a pas de sujet fixe, donc quelque chose que vous traitez de manière, j'allais dire journalistique, je l'entends pas forcément en mauvaise part, mais sans dépasser quoi. En fait, j'aurais envie de vous demander, parce que comme dirait Chevillard, il faut quand même un peu de grain à moudre. Quelle a été l'image fondatrice ou l'idée à l'origine de ce roman?
L'image fondatrice, c'est vraiment, elle est toute simple. C'est parce qu'il se passe quand même des choses dans ce roman. C'est pas 190 petites pages sur absolument rien. Les livres ne sont jamais sur rien. Après, tout dépend de ce qu'on entend par voilà. Est-ce que vous voulez lire des grandes aventures avec des héros magnifiques qui explorent le monde entier et à qui il arrive 1000 péripéties par page, ou des choses peut-être effectivement un peu plus intimistes. Et donc ça part d'une idée, effectivement, une image plus qu'une idée, effectivement, celle de cet homme qui un jour sort de chez lui et rentre dans un appartement en face de chez lui, exactement la réplique vide de son appartement où il mène une vie absolument normale et banale, et qui s'enferme dans cet appartement et qui n'en sort plus et qui va se recréer une espèce de monde à la lisière de la rêverie, de l'imaginaire et de la réalité. Donc voilà, cette image de ce passage d'un lieu à un autre, d'un homme qui tout à coup disparaît sans aller au bout du monde, qui disparaît simplement en faisant un pas de côté par rapport à sa vie, un pas de côté dans sa rue même. C'est cette image-là qui m'a obsédé pendant longtemps, ainsi que l'image de cette disparition subreptice, de cette disparition complètement inopinée, sans aucune préméditation, aucune volonté, il n'y a pas derrière de grand affect, il n'y a pas de motivation psychologique, secrète ou énigmatique. Donc si vous lisez le livre, ne vous attendez pas à des grandes révélations sur les raisons pour lesquelles cet homme tout à coup décide de disparaître. Et moi c'est ça surtout qui m'intéressait, c'était derrière d'aller explorer ce néant qu'est cet homme et comment il... comment il va habiter ce néant, ce grand rien qu'il décide, pour lequel il décide de fuir. Donc cette image-là, elle est première. Après, effectivement, il fallait meubler un peu tout ce rien. Ouais.
Donc c'est un peu l'image séminale du type qui traverse, et après, autour de laquelle vous avez... c'était un peu le tronc du roman.
Oui, complètement. C'est vraiment la matrice du roman. ça, et puis tout un jeu de miroir entre lui tel qu'il était avant et lui tel qu'il va devenir au fil du roman, quand il traverse ce petit Rubicon. Et puis en contrepoint, ce narrateur, parce que ce n'est pas lui qui raconte l'histoire, c'est un narrateur qui est un pilier de bar, on est donc en face de chez lui, et puis en bas de chez lui, il y a un troquet, vous savez, un petit troquet un peu malfamé, pas très reluisant, où il y a comme ça 3-4 piliers de bar qui refont le monde du matin au soir en buvant de la fine. Et c'était le lieu idéal pour justement construire de l'histoire sur rien, parce que c'est ces types-là dont le narrateur, c'est vraiment c'est des gens qui refont le monde à partir de rien. Donc c'était vraiment le dispositif de base était celui-là. Oui.
Et alors justement, vous mentionnez le narrateur, qui est celui qui prend en charge la majorité du récit. On a son style de langage, sa gouaille, et pourtant c'est un personnage qui, à part dans sa parole, n'intervient pas vraiment dans l'action. Alors pourquoi avez-vous voulu faire un narrateur qui était un peu effacé comme ça ?
C'est une bonne question. Il est effacé parce qu'il est dans la fascination. Le personnage principal, qui est donc ce personnage qui traverse la rue et va s'enfermer, disparaître dans son appartement, lui, il ne dit rien, c'est un taiseux. Il doit prononcer peut-être 4 phrases en tout et pour tout dans le roman. Mais paradoxalement, c'est quand même un homme d'action, en quelque sorte, parce que c'est quand même lui qui franchit ce pas, c'est quand même lui qui décide, à un moment donné, pour on ne sait quelle raison, de disparaître. Mmh. Inversement, le narrateur, lui, est quelqu'un qui parle beaucoup. Il parle, mais il ne fait pas grand-chose, à part passer ses journées dans ce bar, à boire et à refaire le monde. Et il se prend de fascination pour cet autre personnage, pour ce Jean Nocher, et donc il va, en quelque sorte, lui-même disparaître dans cet autre personnage. Il va se projeter entièrement là-dedans, et il va tenter à tout craint d'expliquer pourquoi ce type est parti, en lui refourguant tous les mots que l'autre n'a pas, ou que l'autre, en tout cas, refuse de prononcer. Donc il y a ce jeu de miroir comme ça entre un personnage qui ne dit rien mais qui fait et un personnage qui ne fait rien mais qui dit beaucoup.
Alors vous avez mentionné un bistrot, des piliers de bar. Moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant dans ce roman, c'est à quel point la ville avait une importance. Et on se dit, il y a quand même une poésie urbaine qui est quand même une dimension importante du roman. Et peut-être qu'à la campagne, ça n'aurait pas pu exister, ce roman.
Non, sans doute pas, mais ça doit être mon côté Modiano. La ville comme décor, d'abord, c'est très important. Bon, moi, je suis très urbain, citadin de naissance et de vie et de prédilection, donc j'aurais certainement pas pu placer le décor de ce roman ailleurs. Et puis, effectivement, il y a pour moi une poésie de l'urbain qui est très forte et où le décor a un rôle très important à jouer, autre que de pur décor, justement, où une rue, la nuit, un peu enneigée, quelques voitures qui passent, etc., ça donne tout d'un coup une consistance très particulière à un récit, et ça vient effectivement aussi donner corps aux personnages qui évoluent. Les lieux, effectivement, sont très importants. C'est un roman, je crois, très claustrophobe, qui se passe dans des lieux fermés, un appartement clos, un petit bar très étriqué, parce que on est aussi dans une forme de claustrophobie à l'intérieur de soi. Et donc ça se reflète effectivement dans le décor choisi.
Mmh. Oui, d'autant que vous mettez aussi en contrepoint l'immobilité du personnage de Jean Nocher avec autour le fourmillement de la ville et du bistrot.
Oui, alors ça, c'est à cause d'une autre préoccupation qui est celle de, on va dire, des grandes solitudes urbaines, parce que il n'y a pas de lieu plus solitaire qu'une ville, c'est-à-dire qu'on n'est jamais plus seul qu'au milieu de la foule, bien évidemment, et que c'est aussi une sorte de rêverie romanesque autour de la solitude, de l'immobilité, effectivement, au milieu du grouillement, comme vous l'avez dit. Et ce gouffre entre la foule et l'individu n'est jamais si forte qu'au milieu d'une ville, effectivement.
Alors, je voulais lire un petit passage. Peut-être que tout à l'heure, vous nous en lirez un aussi.
Avec plaisir.
Il s'était trouvé, Jean et Solange, malgré eux, sans s'être cherché le moins du monde. On ne convoquera même pas ici le hasard, heureux ou non. À l'un comme à l'autre, et à l'exception d'eux-mêmes, rien n'était plus étranger que le destin. Ils suivaient chacun la plus parfaitement lisse des trajectoires qui se puissent imaginer. Nulle aspérité, la vie réduite à sa plus inoffensive expression. Nous connaissons tous de ces individus aberrants que peu de choses distinguent des cailloux et au nombre desquels, je ne sais pas vous, mais moi souvent, on craint parfois de devoir se compter. Alors, j'ai bien aimé ce passage et je me suis demandé dans quelle mesure les personnages de romans ils relevaient pas aussi de cette... comment dire ? Qu'est-ce qui différencie un personnage de roman, justement, de ces gens sans aspérité ?
Eh bien, aucun, à mon sens. Le n'importe qui peut devenir un personnage de roman pour peu qu'un romancier décide de s'en emparer et d'en faire un personnage de roman. On ne naît pas personnage de roman, on le devient par le caprice et la fantaisie d'un romancier qui décide tout d'un coup de prendre quelqu'un et d'en faire un personnage. Mon autre conviction plus profonde encore, celle-là, est que nous sommes tous des personnages dans la vie même, dans la vie réelle, et qu'on joue tous un rôle qui s'adapte selon les situations professionnelles, intimes, familiales, sociales. Et j'aimais bien effectivement l'idée de choisir le personnage le moins prédisposé à devenir personnage de roman. C'est pas un héros, c'est même pas un anti-héros, c'est un non-héros, c'est à peine un individu. Il y a quelques pages où le narrateur raconte que ce type-là est complètement invisible, même à ses propres yeux, même aux yeux de sa famille, même, vous voyez, c'est le prototype de tous ces gens qu'on croise à longueur de journée dans la rue, et qu'on est peut-être soi-même, et qu'on ne voit pas. On passe sa journée à croiser des gens dans la rue, et dont le visage nous passe devant sans à peine nous marquer. Et pourtant, ces gens ont une existence pleine, entière, complexe, tout autant que la nôtre, mais elle passe furtivement comme ça sous nos yeux, et à moins d'une bizarrerie quelconque, on ne s'en aperçoit pas. Et donc, c'est comme si ces gens n'existaient pas. Donc moi, j'aimais l'idée d'aller piocher l'individu le plus lambda imaginable possible, et puis de voir si derrière, il n'y avait pas justement un personnage de roman. Et on s'aperçoit qu'avec rien, avec un personnage de rien, on peut finalement créer un monde entier.
Et c'est ça qui est assez intéressant et romanesque aussi, c'est que ce personnage dont on ne donne jamais de particularité physique ou morale, en fait, il se définit que par ses actions.
Ses actions, ses non-actions, son immobilisme. Oui, alors ça, c'était en revanche vraiment très conscient. Autant le livre a été construit de manière assez improvisée, parce qu'en fait, je me suis presque donné des contraintes au fur et à mesure. Je ne cessais de m'enfermer dans une histoire qui n'avançait pas, par définition, puisque c'est l'histoire d'un homme qui n'avance plus, qui un jour décide de ne plus avancer, de s'enfermer dans sa vie telle qu'elle est, de se décrocher du monde et de ne plus bouger. Donc j'étais très embêté parce que page après page, il fallait bien que quelque chose arrive et rien n'arrivait. Sur les explications.
Et oui, il se définit par sa manière dont il agit.
Par ce qu'il fait. Oui.
Plus que par.
Pardon. C'est ce que je voulais dire, c'est que je suis un ennemi farouche de la psychologie. Je ne crois pas à la psychologie. Je crois qu'on n'est que très modérément défini par ses traits psychologiques et beaucoup plus par ses actions. Et je voulais vraiment. Et alors là, c'est encore autre chose. Je ne parle pas de la vie. Je parle vraiment de littérature et de romanesque. Moi, j'ai toujours été beaucoup plus fasciné par les personnages littéraires les plus opaques, ceux dont on ne sait rien et dont on ne saura rien au terme du roman. J'aime pas tellement les romans psychologiques, j'aime bien les romans énigmatiques, un petit peu farfelus des fois, un petit peu étranges, et être confronté à des personnages qui restent des mystères, qui restent comme ça des blocs d'inconnus, et qu'il faut en tant que lecteur s'approprier et dont on doit jouer, s'amuser aussi, parce que c'est quand même très ludique, hein. Je voulais pas écrire quelque chose de plombant, de très sombre, même si le fond est sombre, il fallait que ce soit fait de manière assez alerte. Voilà, j'aime les personnages très opaques, qui sont comme des monolithes, comme ça, qu'on n'arrive pas, par quelques côtés qu'on les prenne, on n'arrive pas à les percer à jour, on n'arrive pas à en percer le mystère. Et mon modèle inavoué, autant effectivement la référence et Schnauz, elle est très très présente et elle est revendiquée comme telle, Chevillard aussi. Mais il y a une autre référence qui m'obsède depuis des années et dont ce livre est en en quelque sorte l'aboutissement, ou en tout cas la manifestation physique, c'est le personnage de Bartleby de Melville. Je ne sais pas si vous connaissez cette très courte nouvelle de Bartleby, Bartleby le scribe, qui est un texte qui m'obsède comme il obsède beaucoup de gens. C'est une sorte de sésame pour beaucoup d'écrivains, je crois, et beaucoup de lecteurs, qui est l'histoire de ce petit employé, de ce petit copiste qui est là, qui est à son bureau, mais qui ne cesse de dire, et c'est la seule parole qu'il prononce pendant toute la nouvelle, « Je préférerais ne pas. I would rather not to. » Et c'était et voilà, et mon personnage est une sorte de double dégradé de Bartleby. C'est aussi quelqu'un qui préférerait ne pas, et qui, il est dans l'action, et en même temps, il est dans une espèce de refus d'agir, et de refus de continuer à agir, et de, dans les gestes les plus banals de la vie quotidienne.
Alors, dans la vidéo que vous avez enregistrée pour une célèbre librairie bordelaise, vous parlez du personnage de Solange, qui est la femme de Jean Nocher, en disant que vous la trouviez, vous l'aimiez bien, vous la trouviez attachante. Donc j'avais envie de vous entendre sur ce degré d'existence que vous lui attribuez.
Mais c'est très difficile pour moi de parler de Solange, parce que donc c'est la femme de Jean Nocher. Donc c'est celle qui a vraiment le plus mauvais rôle, si tant est qu'il y a un beau rôle dans cette histoire, parce que c'est elle qui se fait abandonner, plaquer, laisser toute seule avec ses deux enfants pendant que monsieur va voir en face s'il y est. Donc c'est un rôle un petit peu ingrat, mais c'est vrai que je l'aime bien, et en même temps j'ai un rapport très difficile avec ça. J'ai du mal à parler d'elle parce que c'est un personnage féminin, et que autant j'étais obsédé par le personnage inconnaissable, cette difficulté à connaître les personnages, mais alors pour un personnage féminin c'est multiplié par 15, parce que pour un homme je trouve ça extraordinairement difficile d'écrire sur les femmes et d'écrire une femme, d'écrire un personnage féminin. Moi, j'ai une admiration éperdue pour ces écrivains qui savent faire, qui font un roman entier sur un personnage de femme, Madame Bovary étant évidemment le summum de l'accomplissement en la matière, mais il y en a tant d'autres. Réussir un personnage féminin, pour moi, ça relève de la prouesse, parce qu'il faut pour ça, entrer dans la tête d'une femme, c'est vraiment le continent inconnu, comme disait l'autre. Donc, je l'aime bien parce qu'elle est, j'ai voulu en tout cas en faire, l'esquisser comme le possible contrepoison à ce démissionnaire de Marie. Et c'est quelqu'un qui potentiellement aurait pu être une grande héroïne de roman. Alors, elle ne l'est pas vraiment, elle reste un petit peu cantonnée à son rôle ingrat, ça c'est par ma faute. Mais elle a comme ça des ressources intérieures qui d'ailleurs se dénoue un petit peu à la fin du livre, où tout d'un coup, c'est par elle que la possibilité d'une forme de heureux dénouement arrive, ou peut éventuellement arriver. Ça, je laisse un petit peu le suspens sur cette fin de roman. Mais voilà, elle est par définition quand même plus flamboyante que son mari, parce que j'ai la conviction profonde que les femmes sont de toute façon des êtres meilleurs que les hommes.
Et alors, en même temps, vous montrez une certaine ironie envers vos personnages, notamment quand ils vont passer un week-end familial à Paimpol, en Bretagne. Et alors, ils vont se changer les idées. Et le narrateur, qui est donc un des personnages du roman, de dire un peu sardoniquement, mais quelles idées ils pourraient bien se changer. Et en lisant ça, je me suis dit que ça relevait un peu d'une espèce de distanciation romanesque aussi.
Oui, de toute façon, le roman est entièrement construit là-dessus. Dès qu'un épisode un tant soit peu romanesque arrive, par exemple un voyage à Paimpol, c'est vous dire quand même s'il arrive de grandes aventures dans ce livre, il y a toujours cette voix du narrateur qui vient en contrepoint ajouter son grain de sel, donner son petit commentaire sur les péripéties du personnage. Donc effectivement, c'est très souvent ironique, d'une ironie qui n'est pas méchante, en tout cas que je n'ai pas voulu méchante, mais pour faire un bon mot ou pour faire un jeu de mots, il vient effectivement constamment contrebalancer le fil de la narration. Mais c'est aussi une manière de rappeler au lecteur qu'il est dans une fabrication romanesque, qu'il est dans un objet qui n'est pas le réel, qui n'est pas une vraie histoire, qui est une fantaisie, qui est une invention, et que tout ça est sujet à caution, et que cette histoire finalement n'est peut-être qu'un rêve, comme tous les livres le sont, et n'est que l'objet d'une espèce d'affabulation, en l'occurrence celle d'un pauvre type attablé à un comptoir et qui décide de raconter une histoire pour amuser la galerie.
Alors, on sent, vous en avez un peu parlé, mais une écriture pétrie de références. Rien que sur la quatrième de couverture, il y a marqué Bartleby, Blondin, Echenoz et Jarmouche. Et alors, on voit notamment page 53, dites-moi si je me trompe, Villon, Beckett et Chevillard.
En une page ?
Il me semble.
Diable, ça fait un peu beaucoup.
Diable.
Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de références, je le confesse. Et pour une raison très, très simple, je m'en suis aperçu en fait après avoir fini le roman, c'est que pendant très longtemps, moi j'ai toujours voulu être écrivain. J'ai trouvé à vivre parmi les livres avec par d'autres moyens, en lisant bien sûr, et puis en éditant, parce que je suis éditeur de profession ainsi que traducteur. Mais mon vrai rêve depuis tout gamin, c'était d'écrire des romans. Voilà, à l'âge où d'autres enfants veulent être cow-boys ou pompiers, moi je voulais être romancier. Et j'ai jamais réussi à l'être, et je me suis dit pendant longtemps que je ne réussirais jamais à l'être, entre autres parce que justement j'étais obnubilé par ces références qui sont celles de tout lecteur, c'est-à-dire qu'on se traîne tous un bagage de lecture ou même d'ailleurs de films, et effectivement aussi ou de chansons ou de choses. Enfin, on est parasité, on est habité et parasité constamment par tout un bagage de références littéraires, plus ou moins nobles, plus ou moins avouées, et qui pose un vrai problème à l'aspirant écrivain. Parce qu'au moment où, dès lors qu'on décide très prétentieusement de vouloir écrire un livre et de rajouter son petit livre à la cohorte des milliers et des milliers de livres qui paraissent chaque mois, on se demande de quelle autorité on peut se prévaloir alors que tant d'autres livres ont été écrits et que les références en nous abondent tellement que c'est un obstacle en fait à l'écriture. Voilà. Et pendant très longtemps, toutes ces références m'empêchaient d'écrire. Jusqu'au jour où j'ai décidé de m'en débarrasser, de m'autoriser à écrire. Et pour ce faire, plutôt que de passer sous silence toutes ces références qui m'encombraient et qui m'empêchaient, ben j'ai décidé de les refourguer dans le roman et de les étaler au grand jour, de trouver le moyen de les mettre là de manière ultra visible et plutôt que de m'en cacher. Voilà, c'est ma manière à moi de me débarrasser des références, c'est de les montrer. Donc effectivement, elles sont très nombreuses. C'est aussi pour une raison beaucoup moins complexe que ça, beaucoup plus simple. C'est aussi une manière de s'amuser. Moi, je voulais écrire un livre qui soit amusant à lire, à défaut de vous entraîner dans d'immenses aventures. Je voulais qu'il y ait une aventure de la langue. Je voulais qu'il y ait comme ça une espèce de farandole, de références, de jeux de mots, de plaisir du jeu de la langue. Voilà, ça pour moi c'était très très important. Et les références font partie de ça. Il y a aussi un principe purement ludique à cette abondance de références dans le livre.
Et on sent une certaine tendance, dites-moi si je me trompe, vers les éditions de minuit.
Non, non, vous ne vous trompez pas. Je suis un vieux et grand lecteur des éditions de minuit que j'admire beaucoup et voilà où j'ai trouvé moi c'est mon affinité la plus naturelle effectivement, Beckett évidemment, mais plus pour parler plutôt des contemporains, effectivement quelqu'un comme Echenoz, quelqu'un comme Chevillard sont vraiment des gens que en tant que lecteur j'admire énormément. Ah ouais.
Mais c'est intéressant parce que vous avez parlé du sentiment de la cohorte de livres qui existe déjà. Et je pense que ça, la plupart des écrivains contemporains le ressentent. Enfin, ça doit être le cas depuis quand même 2-3 siècles. Mmh. Est-ce que, en allant par là, parce que ça m'a fait penser à une citation de Chevillard qui dit « Ma seule fierté est que si je n'écrivais pas mes livres, personne ne le ferait à ma place. » Et du coup, je me dis aujourd'hui, pour écrire, vu la cohorte de livres qui existe effectivement, on a envie de se dire, il faut écrire le livre de Pierre de Marty, le livre que seul Pierre de Marty pourra écrire.
Oui, mais il faut avoir pour ça il faut être d'une extraordinaire prétention.
Bah, je sais pas.
Mais qui est nécessaire. Je dis pas ça en mauvaise part. Hein, c'est pas forcément péjoratif, mais il faut effectivement accepter de se donner ce rôle-là et assumer le fait qu'on pense à un moment donné pouvoir être en mesure d'écrire un livre que personne d'autre ne saurait écrire. Et il faut être très mégalomane quand même pour faire ça. Et je pense que tous les écrivains sont mégalomanes à un titre ou un autre. Mais il faut l'accepter soi-même, ce n'est pas forcément évident.
Alors, vous soulevez quand même dans ce livre un problème assez métaphysique, je trouve. C'est qu'à un moment, il y a donc Jean Nocher qui est chez lui, enfin, donc dans son, dans le en face, dans cet appartement. Il regarde une collection de timbres, c'est ça, hein, au mur, hein, une collection de...
Oui, parce qu'il est, il est philatéliste au départ.
Voilà.
Donc quand il part dans son appartement qui est complètement nu, où c'est vraiment quatre murs nus dans lesquels il s'enferme, il a juste une petite maquette de bateau qu'il a dénichée dans une brocante, justement, lors de son fameux week-end à Paimpol. Et puis, il aimerait bien décorer un petit peu les murs pour voyager visuellement. Alors il trouve rien, il trouve pas de belle affiche, et puis il se dit finalement qu'il va prendre ses timbres, alors il va se voler à lui-même des timbres dans sa boutique, et puis il les colle méthodiquement un à un, et puis ça, les murs deviennent comme ça une espèce de grande fresque philatélique qui compose une espèce de carte bizarroïde mentale d'un lieu qui n'existe pas, qui est fait de tous les lieux, et dans lesquels par la vision il s'échappe, ouais. Mmh. Ouais.
Mais ça, c'est une belle image parce que ça fait écho aussi au voyage impossible et toujours décevant qui est un motif littéraire. Et ça m'a plu. On a envie de se dire, en plus, que c'est une image aussi de la lecture, cette espèce de voyage immobile.
Oui, c'est ces timbres qui tapissent ces murs. Ça pourrait être autant de livres. D'ailleurs, il en a quelques-uns qui sont maigrement épaulés sur un rayonnage comme ça. Mais oui, c'est tout ce qui est... toute trace écrite, en fait, qui permettent de s'évader, de voyager. Ça, c'est vraiment un cliché. Mais effectivement, ces timbres sont aussi une image à la fois de l'impossibilité du voyage et de l'enfermement et en même temps une sorte de promesse d'évasion. Ouais, tout à fait. Donc, ça pourrait absolument s'appliquer au livre tout autant qu'au timbre, ouais, même plus.
Est-ce que vous êtes un touriste, vous ?
Pas du tout. Je suis un très, très mauvais touriste. Je suis un très bon touriste de ville. J'aime les villes, j'aime aller dans des villes, mais il faut vraiment que ce soit des villes, vraiment des gros machins avec d'énormes immeubles, beaucoup de voitures, des pots d'échappement, des trucs qui puent, enfin, vraiment de l'urbain, quoi. Il faut de l'urbain. Si vous me mettez dans une sublime campagne, dans une rizière vietnamienne ou je ne sais où, moi je suis complètement perdu et je reste là en attendant qu'on vienne me rapatrier dans un avion ou dans une ville. Donc, touriste, non, je ne suis pas un... Même chez moi d'ailleurs et même dans ma ville, même là où je suis pas un grand flâneur, je vais pas déambuler comme ça dans la ville. Je suis plus quelqu'un de lieu clos. Donc, mais il y a du tourisme à faire dans les lieux clos aussi. On peut aller très loin dans l'enfermement.
Et vous avez vécu à New York. Alors on apprend sur le site de votre premier éditeur que vous êtes installé à New York fin août 2001.
Oui, je suis arrivé à New York le 25 août 2001 et voilà. Je faisais le zozo en haut des tours jumelles du World Trade Center, je crois, le 2 ou le 3 septembre.
Ah oui.
Voilà.
Et ce qui a occasionné votre premier livre, qui est un récit.
Oui, là, qui n'est pas du tout un roman. Ça, c'est vraiment mon premier roman. Et l'année dernière, j'ai effectivement signé un petit livre qui était un tout petit récit personnel. Alors, également nourri de rêveries et de choses assez romancées. Mais qui est complètement autobiographique et qui était vraiment le récit, non pas de ce que j'ai pu faire à New York pendant les 2 années où j'y ai vécu, mais vraiment plus une espèce de témoignage 10 ans après de sensations, vraiment un livre plutôt de choses vues et de sensations vécues à New York pendant ces 2 années et qui ont été effectivement marquées par les attentats du World Trade Center.
Et comment, pour l'écrivain que vous êtes, on passe du récit au roman comme ça ?
Bah, ça n'a rien à voir, en fait. D'abord, parce que très concrètement, mon petit ouvrage sur New York était un ouvrage de commande. C'est-à-dire que c'est vraiment un éditeur qui avait pour idée très belle, d'ailleurs, de faire dialoguer des textes contemporains avec des grands textes antiques. Et la commande ici était de faire un texte autour du 11 septembre en relation avec les lettres de Pline le Jeune sur l'éruption du Vésuve qui détruisit Pompéi. Donc, il y avait ce canevas-là. Donc, c'était vraiment un ouvrage de commande autour de cette idée qui m'a permis à moi d'écrire ce petit témoignage que j'avais envie d'écrire depuis longtemps sur New York, parce que cette ville continue de me fasciner et que c'est un peu mon en face à moi. C'est-à-dire que pendant un temps, j'ai flirté avec l'idée de vivre là-bas. Alors, la vie ne s'est pas passée comme ça et je m'en félicite aujourd'hui. Mais voilà, c'était vraiment une occasion, un livre d'occasion. Le vrai livre que je voulais écrire, c'était celui-là, et peut-être les autres à venir, ça on verra bien. Donc on passe très naturellement de l'un à l'autre, tout simplement parce qu'on ne passe pas de l'un à l'autre. C'est que ces deux braquets totalement différents. Et de manière générale, j'aime bien l'idée qu'on écrive des livres radicalement différents de l'un à l'autre. Mm-hmm. Et, Et je souhaite de tout cœur que mon deuxième roman ne soit en aucun cas comparable au premier et qu'il soit dans un registre complètement différent.
Mais du coup, ça nous laisse penser qu'en face, et aussi nourri de si ce n'est d'événements réels, du moins de votre expérience sensible ou de...
Sensible, mais pas vécu, parce que s'il m'était arrivé la même histoire, ce serait très très inquiétant. Et j'ai certainement pas l'intention de me transformer en Jean Nocher. Mais oui, ça c'est inévitable, c'est forcément nourri de choses profondes ou pas, que moi-même j'ignore, que je préfère ignorer. Parce que s'il fallait descendre dans les profondeurs personnelles qui font que j'écris un truc comme ça, je pense que ce serait très inquiétant. Donc j'en réserve la primeur à mon psychanalyste le jour où j'irai en voir un.
Alors, vous avez mentionné donc votre travail d'éditeur, mais vous êtes également traducteur. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous articulez vos activités de traduction et d'écriture romanesque ? Est-ce que pour vous, en traduisant, vous êtes aussi un peu écrivain ?
Complètement. Complètement. Et c'est peut-être la deuxième chose. Je parlais tout à l'heure des références et puis de ce processus qui fait que petit à petit, on décide de s'en débarrasser et on arrive à s'en débarrasser. L'autre chose qui m'a permis enfin d'écrire, c'est effectivement d'être passé par la case traduction. Si je n'étais pas devenu d'abord traducteur, je pense que je n'aurais jamais écrit de roman non plus. Je pense que je n'aurais pas pu devenir romancier si je n'étais pas traducteur. Parce qu'effectivement, vous avez tout à fait raison, traduire, c'est écrire. Du moins en partie. Alors, on n'écrit pas ses propres mots, encore que. On se glisse dans la peau d'un autre, on se met dans le livre déjà accompli de quelqu'un qui vient avant et dans une autre langue. Et on doit être très fidèle, évidemment, au texte. Mais en bout de course, on a quand même fait œuvre d'écrivain, c'est-à-dire qu'on a quand même écrit quelque chose. Et pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, on a écrit un livre que personne d'autre n'a écrit, dans une langue, voilà, qui est le français. Alors, c'est le même livre, en miroir en tout cas, d'un livre écrit dans une autre langue, mais c'est un livre unique et écrit par une personne unique qui est le traducteur. Donc moi, je suis totalement effectivement partisan de dire que les traducteurs sont des écrivains. Et cette expérience-là, effectivement, m'a donné une forme d'autorisation en me disant, si je peux faire des traductions, peut-être aussi que je peux traduire mes propres obsessions, mes propres sentiments sous la forme d'un roman. Donc effectivement, ça a été les deux choses sont très très étroitement imbriquées, oui, pour moi.
Alors, vous avez parlé à propos de ce roman d'une aventure de la langue, et c'est vrai que c'est une sorte de voyage dans la langue française, dans le vocabulaire. Vous êtes bon en Scrabble, non ?
Je suis très très mauvais au Scrabble, mais bon. Je suis très bon en dictionnaire. D'accord. J'aime beaucoup lire les dictionnaires. Et alors j'ai beaucoup entendu depuis la sortie du bouquin, il y a des gens qui sont venus me dire mais c'est pas possible, il y a trois mots par page que je connais pas. Et je leur dis mais moi non plus je les connaissais pas. Et ça m'a amusé follement. Alors c'est peut-être un plaisir un peu égoïste, mais j'espère qu'au moins quelques-uns le partageront aussi. Moi j'adore les mots rares, j'adore les mots biscornus, les mots qui sortent de nulle part mais qui existent bel et bien et qui tombent souvent en désuétude, qu'on n'utilise pas malheureusement. Je crois qu'on doit utiliser à peu près 10% des ressources de la langue française. Et moi j'adore aller dans des gros dictionnaires, aller piocher le mot le plus improbable qui n'a pas été utilisé depuis 1727. Et je trouve ça passionnant parce que c'est de la musique, parce que ces mots ont une espèce d'étrangeté en eux, il y a une jouissance de la sonorité des mots, une jouissance de la rareté des mots. Donc quand on tombe sur des mots très rares ou bizarroïdes dans ce roman, c'est pas du tout par prétention, c'est pas du tout pour étaler une espèce de science linguistique que je ne possède pas, mais au contraire pour... encore une fois, voilà, peupler ce petit univers très fermé, très gris, très banal, d'une luxuriance langagière. Parce que bon, c'est l'histoire d'un type très gris, c'est une petite histoire étriquée. Si on en reste là, c'est complètement déprimant, il n'y a plus qu'à se mettre une balle dans la tête. Donc il fallait autour de ça que ce soit très luxuriant au niveau de la langue. Donc j'avais envie de m'amuser à aller chercher des mots improbables, quitte effectivement à forcer le lecteur parfois à lâcher le livre pour aller chercher son Larousse. Mais je sais qu'il y a des lecteurs qui sont très allergiques à ça. Il faut que tout soit donné de manière très immédiate parce que ça crée, comme on le disait tout à l'heure, une distance par rapport à la lecture. Ça force à prendre du recul. On est constamment mis un petit peu en retrait de l'histoire. On n'arrive pas à être entièrement embarqué dedans, mais c'était volontaire, ouais, absolument.
Et alors, vous qui avez le goût du vocabulaire, est-ce que vous avez le goût des disciplines un peu spécialisées qui fourmillent de vocabulaire spécifique, de jargon? Parce que je repense souvent à cette citation de Suran qui dit « On gagne à fréquenter un domaine éloigné du sien, surtout dans les domaines où le moi sévit. »
Oui, absolument. Non, c'est de toute façon, c'est toujours très très bien de fréquenter des domaines autres que soi et d'aller voir ailleurs que dans soi-même, parce qu'on est finalement pas si riche que ça et qu'on s'enrichit au contact de l'étranger et de l'étrange. C'est pour ça que j'ai fait de mon héros un philatéliste. Inutile de dire que je ne connais strictement rien au timbre. Et du narrateur, un pilier de bar, moi qui ne les fréquente pas. Donc... et puis c'était un défi, c'est amusant d'aller parler de choses qu'on ne connaît pas, donc de faire un tant soit peu de recherche pour aller effectivement découvrir de quoi sont faits les autres, de quoi sont faites les occupations des autres et de quoi effectivement est fait leur vocabulaire. Et ça, c'est très intéressant de voir que selon ce qu'on est et selon ce qu'on fait dans la vie, on n'a pas les mêmes mots, on n'a pas la même langue. Voilà.
Est-ce que vous-même, vous avez un hobby qui vous est une source de vocabulaire, outre la littérature ?
Je crains que non. J'ai deux, trois notions de musique, alors il doit me rester quelques bizarreries linguistiques sur la musique. Mais à part ça, non, malheureusement, je crois que je suis presque aussi banal que mon héros.
Bon, est-ce que vous voudriez bien nous lire un petit passage ?
Ouais, bien sûr.
J'ai pas d'idée, je vous laisse
choisir. Ah, vous avez pas d'idée. Alors... Le temps passe, donc, on ne le répétera jamais assez. C'est fastidieux, mais l'essence même de sa nature. Il passe, il presse, il insiste, le scélérat, fait son œuvre. Le désert se traverse. Et puis, je vous l'avais bien dit, un jour, Solange rebondit. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, si même, au-delà du temps qui passe, presse, fait son œuvre, insiste, et à la fin transfigure tout, il s'est passé quoi que ce soit. Ce qu'on sait, c'est que Solange nous revient, un beau jour, transfiguré. Nouvelle coupe de cheveux, nouvelle garde-robe, nouvel éclat de conquête dans le regard. Quant à cet homme qu'on voit grimper d'un pas conquérant, lui aussi, l'escalier du petit immeuble gris de la rue du Champ de Veille, des salasseries plein la tête et un bouquet d'amarante à la main, oui, c'est bien à sa porte qu'il vient frapper. Elle ouvre, on connaît la suite. Bref, pour Solange, apparemment ça va. Ça a été dur pendant un certain temps, pas facile tous les jours, elle en a bavé, mais il faut croire qu'elle a su faire face, et même refaire surface, remonter la pente, retourner la situation à son avantage, si j'ose dire, puisque maintenant, manifestement, ça va. Tant mieux, ne boudons pas son plaisir. Jean Nocher, en revanche, ça ne va pas du tout, du coup, il vient d'acheter un revolver.
C'est vrai qu'on en apprend beaucoup, mais sans non plus révéler le nœud de l'intrigue. Et en guise de conclusion, j'aimerais bien que vous nous parliez. On m'a dit dans l'oreillette que vous aviez traduit le dernier livre de J.K. Rowling. Une place à prendre.
Oui, alors c'est pas le dernier, en fait, c'est premier. Celui-là. Parce que depuis, elle écrit des polars.
C'est vrai, sous pseudo, c'est pour voilà. Ça. Voilà.
Et alors, là, moi,
est-ce que vous pourriez nous raconter cette aventure ?
J'ai pas poussé l'abnégation du traducteur jusqu'au polar sous pseudonyme de J.K. Rowling. Mais c'est vrai que j'ai traduit son premier livre pour adultes. Après sa série Harry Potter, elle s'est lancée dans le roman pour adultes. Donc un gros roman qui s'appelait Une place à prendre.
Et c'était assez épique, non, cet épisode de traduction ?
C'était une sacrée expérience, d'autant que ça s'est fait dans un temps très court, puisque le livre en français devait paraître exactement au même moment que le livre en anglais. Donc j'ai traduit ça en 4-5 semaines.
Ah oui.
Et là aussi, je ne peux pas vous révéler toutes les coulisses, parce que je suis tenu au secret par des clauses de confidentialité drastiques. Il y a des sbires de J.K. Rowling qui viennent
Il y avait un article dans la presse une espèce de bunker.
Ouais, alors ça, c'était voilà.
C'était faux.
Ça, c'était de l'imagination pure. C'est le journaliste qui s'est excité tout seul en disant on a mis un traducteur dans une cave avec un manuscrit.
Ah oui, c'était le 1er avril.
Mais c'était pas loin de ça. J'ai vraiment vécu, là, pour le coup, vécu en enfermement pendant 5 semaines. Mais dans un lieu fort agréable qui n'avait rien d'un bunker, mais vraiment pendant 5 semaines, week-end compris, à traduire 14-15 heures par jour, voilà, d'affilée. Donc oui, c'était une drôle d'expérience qui s'apparentait plus à une sorte d'exploit sportif qu'à de l'amour littéraire. Mais c'était intéressant, voilà, à raconter un jour peut-être.
D'accord. Merci Pierre de Marty.
Merci beaucoup. Merci à vous.